Au début, on a essayé de trouver des idées business un peu le week-end entre deux semaines de taf importantes chez Uber et essayer d'avoir quelques idées un peu comme ça sur le côté. Ce que tu réalises assez vite, c'est que tes idées sont quand même pas folles et en grande partie parce que t'es pas du tout conditionné pour réfléchir à ce à quoi va ressembler le futur, à t'affranchir des obstacles du quotidien, à essayer vraiment de te projeter dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Ça demande un état d'esprit bien particulier. En tout cas, moi, mon ressenti, mon sentiment à l'époque, c'était ça demande un état d'esprit bien particulier de réfléchir à une idée business et de trouver une idée sur laquelle tu vas pouvoir bosser pendant 10 ou 20 ans et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'ai essayé de le faire un peu le week-end à droite à gauche. J'ai vite réalisé que ça n'allait pas nous amener bien loin. Et donc, ensuite, la conclusion, ça a été écoute, une aventure entrepreneuriale, c'est quand même quelque chose qui demande toute ton énergie, qui a déjà tellement peu de chances de succès, entre guillemets, que si tu n'y mets même pas toute ton énergie et que tu gardes de l'optionnalité, que tu gardes ton job au quotidien et que tu te dis si je trouve la bonne, j'irai, ben en fait, tu peux faire ça pendant 10 ans et ne jamais lancer ta boîte. Donc, on s'est dit, étape numéro 1, on met fin à nos responsabilités actuelles et on clôt le chapitre Uber dans les meilleures conditions, on laisse nos équipes dans les meilleures conditions possibles et voilà, on prend du recul là-dessus. Étape numéro 2, on fait un break, d'où le voyage à vélo avec ma femme pendant un mois. Et étape numéro 3, on se met à réfléchir à une idée business, mais on s'impose un temps limité. Parce que le danger, c'est que ça peut durer une éternité. Hein. Il y a rien ni personne, à aucun moment, qui va te dire, bon, ça y est, là, t'as la bonne idée, maintenant lance-toi. Et
Bah,
donc, on s'est imposé une deadline pour se dire, on prend la moins mauvaise idée à cette date-là et on y va.
la limite, c'est Pôle emploi,
Et la
peut-être.
limite devient Pôle emploi, exactement. Donc,
C'est généralement la limite de tous les entrepreneurs, en fait, quoi.
exactement. Donc, on s'est dit, écoute, on va plutôt qu'attendre cette date-là, on va prendre la responsabilité sur notre timeline. Et donc, on s'est lancé, on s'est donné une date butoir et on s'est lancé.
Alors, si je m'intéresse à ça, c'est aussi parce que moi, j'ai été dans ce process et j'en ai abusé de ce process, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si je fais ce que je fais aujourd'hui, j'adore ce que je fais aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis ravi d'être là, vraiment, je suis trop content. Mais en fait, c'est parce que j'ai pu prendre le temps. J'ai eu le luxe de prendre le temps. Et donc, pour moi, ça me parle énormément ce que tu fais. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui, je sais pas, ont un projet, une idée, et qui voudraient faire autre chose, changer, peut-être monter une boîte, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, si toutefois on peut donner un conseil là comme ça, qui est
Ouais,
pas
c'est.
personnalisé du tout, mais je sais pas, hein, dans les grandes lignes, si vous voulez lancer un projet pour avoir des idées, est-ce qu'on ferait comme toi ou t'as
Écoute,
d'autres?
moi je peux parler en tout cas de mon expérience et après chacun verra si ça leur correspond ou non. Donc je ne m'avancerai pas à donner un conseil général à tous ceux qui souhaitent se lancer, mais je peux partager moi ce qui a fonctionné dans mon cas avec Stéphane et donc ça peut donner des idées, je pense, à droite à gauche. Moi ce qui a bien fonctionné, c'est un. Prendre la décision de quitter ma boîte et de me dire je vais me lancer, c'est une décision active et je vais trouver l'idée et je vais y consacrer toute mon énergie. Comme ça, je sais que je suis dans l'obligation, je m'impose à moi-même de trouver cette idée et de démarrer puisque j'ai quitté mon job précédent. Donc, créer cet espace-là, je trouve que c'était la première décision importante pour moi. Ensuite, ça a été de me dire de se laisser un peu de temps pour réfléchir, mais ensuite de se donner une date butoir parce que c'est très difficile sinon à un moment de se dire ça y est, c'est bon, j'ai l'idée, j'ai le projet. Il n'y a aucune validation externe qui aura lieu. Donc en fait, il y aura même toujours des personnes qui essaieront de t'aider, mais qui en fait te diront toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Et il n'y a pas de bonnes idées ou de mauvaises idées. Les idées, elles ont très peu de valeur en soi. Très vite, c'est l'exécution qui a de l'importance. Donc la deuxième chose qui a eu beaucoup de valeur en ce qui me concerne, ça a été de m'imposer une date butoir avec Stéphane et qu'on se dise. On s'est enfermé dans une maison, on s'est dit à la fin de la semaine, on prend la moins mauvaise idée de la semaine et on démarre. Parce qu'on apprendra tellement plus de choses en l'exécutant qu'en y réfléchissant tout seul dans notre coin que ça vaut le coup de se lancer. Et ensuite, dans ce processus d'idéation, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros de réflexion et pour trouver une idée, le conseil qui a été le plus utile, c'est vraiment de se projeter dans le futur à 5 ou 10 ans. De se demander à quoi on pense que le monde va ressembler à ce moment-là et qu'est-ce qui existera qui n'existe pas aujourd'hui ou qu'est-ce qui existera mieux que ça n'existe aujourd'hui et de surtout pas se laisser bloquer par les petits obstacles auxquels on réfléchit si on se lance la semaine prochaine. Parce que ce sera forcément difficile. Nous, quand on s'est lancé, il y a plein de gens, la majorité des gens nous disaient, mais le marché du vélo électrique, il est trop jeune, trop récent, il n'y a pas assez de vélos d'occasion, vous aurez juste pas de supply, vous n'aurez pas d'approvisionnement. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a 25 millions de vélos électriques en circulation aujourd'hui en Europe, et que donc il y a certainement un problème qui n'existe pas, c'est celui de manquer d'approvisionnement. En réalité, il y a déjà probablement des centaines de milliers de propriétaires de vélos électriques qui, pour une raison ou pour une autre, aimeraient changer de gamme, changer de marque, changer de modèle, changer de je ne sais quoi, passer au modèle le plus récent, et donc qui aimeraient, tant qu'à faire, idéalement, vendre dans de bonnes conditions leur vélo actuel. Donc ça, c'est juste un exemple de barrières et de problèmes que beaucoup de gens vont soulever et qui, en réalité, ne sont pas des véritables points bloquants, mais qui peuvent te freiner en tant qu'entrepreneur avant de te lancer.
Ok. Je sais que c'est pas une recette miracle, mais je trouve très intéressant sur comment est-ce qu'on peut justement s'affranchir de ces barrières, parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, t'as des personnes qui femmes, enfants, famille, appart, prêt, whatever, et donc en gros c'est dur de se lancer, enfin tu vois, c'est, enfin, et pourtant ça, enfin ça amène tellement, mais tu vas nous en parler. Bon, bah, c'était ça en fait l'idée. Donc vous, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes isolé dans une baraque. Vous avez quoi, loué une baraque à la campagne dans un trou paumé?
On a loué une baraque à la campagne. On essayait tous les jours ou tous les deux jours d'aller faire une rando ou un peu de trail pour se changer les idées et garder un peu l'esprit au vert. Et puis le reste de la journée, on passait la journée à décortiquer différentes verticales, différents business, différentes idées. Et parfois, en prendre une, à se projeter, à essayer d'imaginer okay, à quoi ressemblent les 2-3 prochaines années, comment on s'y prendrait pour se lancer, quel serait notre impact à grande échelle, etc. Et puis généralement, on dormait dessus et le lendemain, on se disait « mais c'est une cata cette idée, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête ». Et puis on détruisait tout et puis on repartait. C'est un process qui a amené à Upway, dont je suis très content. Ça n'a pas été un process que je qualifierais de « agréable ». Parce que en fait, c'est une semaine qui est éprouvante. En fait, souvent, quand toi, t'es enthousiaste à propos d'une idée, ton associé, lui, il trouve que c'est peut-être pas si bien. Inversement, quand lui, il s'enthousiasme pour un truc, toi, t'as un doute et donc tu te dis « Ah là là, mais dans quelle direction on part ?» Et parfois, on est tous les deux hyper excités par un projet et puis le lendemain, on le renverse complètement. Donc, c'est assez éprouvant. Franchement, émotionnellement, c'est plutôt une semaine un peu difficile. Mais franchement, le résultat, c'est qu'on a enfin trouver le dernier jour de la semaine le créneau et en tout cas l'idée de se positionner sur ce marché du vélo électrique, reconditionner et en fait c'est le projet qui a le plus résisté à toutes les attaques qu'on a lancées dans tous les sens pour la challenger. Donc,
effectivement ça doit être intense parce que bon, déjà l'isolation, bon, pendant une semaine tu te dis je fais que ça, en plus j'imagine que vous êtes mis dans un cadre de privation, quelque chose comme ça, enfin en vous disant je sais pas, il y a internet, pas de distraction, enfin tu vois, c'est
ce qu'on voulait, c'était être entre nous, c'était ne pas avoir de distraction immédiate autour de nous et ensuite d'avoir des espaces verts pour pouvoir se changer les idées. Parce qu'à un moment, quand tu t'enfermes dans une pièce pendant 4 heures, il y a un moment où tu as besoin de souffler. Après, c'était régulièrement, on passait des coups de fil autour de nous, tu vois, quelques proches, quelques copains pour un peu tester aussi nos idées, recevoir des premiers feedbacks. Et régulièrement, du coup, on faisait des recherches internet pour se dire, OK, qu'est-ce qui existe déjà dans ce secteur-là, retrouver quelques chiffres pour confirmer les opportunités de marché, ce genre de choses. Mais on a utilisé plein d'approches différentes. Un des systèmes qu'on a utilisé, c'est qu'on s'est dit, voilà, on va catégoriser des grandes verticales, des grands sujets. Il y avait la mobilité qui, moi, continuait à me passionner. Il y avait le secteur des déchets qui me passionnait vachement. Il y a une chose malheureusement à laquelle je crois, c'est que les déchets par habitant ont plutôt tendance à augmenter qu'à baisser. Et donc en soi, c'est entre guillemets un marché de long terme. C'est-à-dire que c'est un problème en tout cas à résoudre à grande échelle. Et il y en avait d'autres comme ça. Et finalement, c'est le croisement mobilité et déchets qui nous a amené là où on est, puisque en creusant le sous-secteur des déchets, on a réalisé que le plus d'impact qu'on pouvait avoir, en tout cas nous, notre savoir-faire, nos compétences, c'était probablement dans le reconditionnement, l'upcycling, l'économie circulaire, et donc la réduction des déchets par le réemploi finalement. Et après, c'est en creusant différentes catégories de réemploi qu'on a identifié que dans la mobilité, tu avais ce secteur en pleine croissance qui est le vélo électrique, avec des ventes annuelles qui explosent, avec un taux d'adoption qui est encore loin de son potentiel long terme, mais avec un marché de l'occasion qui est sous-développé, et en grande partie parce que les gens n'avaient pas confiance dans le fait d'acheter un vélo électrique qui est technique et cher d'occasion auprès de n'importe qui et sans aucune garantie si le moteur casse après 15 jours. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire bon, bah, en fait, là, il y a peut-être un truc à faire.
Donc là, on a le concept et la genèse. Pour revenir un petit peu justement sur cette phase de recherche, C'était quoi les pires idées que vous avez eues? Enfin, ça devait pas forcément être des très très mauvaises idées, mais c'était quoi vraiment les moins bonnes, quoi?
Bon, écoutez, déjà, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Je pense que l'exécution fait beaucoup. Parfois, tu as des idées qui paraissent pas sexy, puis qui peuvent créer des très beaux business. Donc, mais il y a une idée en particulier que Stéphane avait commencé à soulever, et moi, j'étais très, très exigeant sur la mission. Je voulais vraiment qu'on se fasse un truc où, même dans les moments difficiles, on se lève le matin et on se dit que ça vaut le coup. Et il y avait une idée qui remplissait pas cette case, c'était de l'assurance B2B. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, quand tu te lances en tant que, tu vois, en tant que PME, que restaurateur, que coiffeur, que tu vois, plein de business petits et grands, tu as tout un tas d'obligations assurantielles. Et aujourd'hui, pour trouver et pour signer ta prochaine assurance nous paraissait probablement assez old school et mal traité. Et de la même manière que tu avais plein de néo-assureurs qui avaient révolutionné un peu l'expérience client dans l'assurance des particuliers, que ce soit l'assurance domicile, l'assurance santé, ce genre de choses, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur toutes les assurances professionnelles. Enfin, surtout Stéphane s'est dit ça, parce que moi, très vite, j'étais là, écoute, genre, je peux comprendre que peut-être que le marché est gros, mais vraiment, je ne me vois pas me lever le matin et bosser là-dessus. Donc ouais, ça faisait partie des idées qui n'ont pas survécu au test de la mission.
Donc, dernier jour, comment du coup ça vient, tu sens qu'il y a un truc, tu dis vélo, ah tiens vélo ça me parle, enfin comment c'est arrivé sur la table? Donc tu disais déchets, mobilité, mais du coup c'est quoi le lien avec le vélo et comment ça s'est fait?
Déjà, je pense que dans un coin de ma tête, il devait y avoir des restes de finalement l'expérience que j'avais eue de voyager à vélo avec ma femme, puisque moi j'étais sur mon gravel, mon vieux Genesis croix de fer que j'ai depuis 2014. Et elle, en fait, comme on allait partir pour 30 jours, autant faire une journée de vélo ensemble, il n'y avait aucun problème, mais faire 30 jours, je ne sais pas, moi, on a dû faire 1500, 1700, 2000 bornes et avec pas mal de dénive chaque jour. On se disait, faire ça tous les jours ensemble, ça va peut-être être compliqué. Et donc, en fait, elle s'est acheté un vélo électrique pour l'occasion. Et donc, j'ai pu découvrir grâce à ça à quel point ça t'ouvrait des portes, parce qu'en fait, ça allonge les distances, ça supprime les reliefs. En tout cas, ça nous a permis de faire ce voyage de manière hyper confortable. Ça, c'était, je pense, une super expérience. Et ça m'a fait en tout cas prendre conscience du potentiel du vélo électrique quelque part. Et donc, quand l'idée est revenue sur la table pendant notre semaine, je pense que ça a eu une influence. Mais concrètement, en fait, on a pris ce concept d'économie circulaire. On savait qu'à l'époque, déjà, sur, tu vois, l'électronique, par exemple, un back market avait un succès fou. Et on se disait, il y a évidemment d'autres secteurs dans lesquels on peut développer un acteur à grande échelle qui permet de réduire les déchets évitables et qui permet de leur redonner une nouvelle vie et d'en refaire un nouveau produit hyper qualitatif. Et en fait, on a pris de manière très rigoureuse, tu vois, différents secteurs. On a regardé la mode et l'habillement. Évidemment, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On a regardé pas mal les meubles et tout ce qui était objets de grande taille, etc. Et puis, on en est arrivé à, en parlant à différentes personnes, etc., au sujet du vélo électrique, parce que je pense qu'il y avait des personnes qui avaient vu passer des constructeurs, des dossiers de mecs qui se lançaient dans le vélo électrique, mais plus sous la partie création de nouvelles marques. Et en fait, ils nous disaient, les chiffres du marché sont assez impressionnants. Et on s'est dit, mais est-ce que ce marché-là, il a déjà tu vois, une économie circulaire qui vit et qui est liquide? Et en fait, la réalité, c'est que la réponse était non. Et donc, on s'est mis en tête de répondre à ce challenge.
Ok, donc là vous trouvez le truc et vous dites ok, donc vélo électrique, reconditionné n'existe pas.
En gros, la façon dont on le regarde à ce moment-là, c'est le vélo électrique, c'est énorme, c'est un produit qui plaît vachement et c'est un produit qui a un taux d'adoption déjà impressionnant et qui est en pleine croissance. Le marché de l'occasion, il est sous-développé en grande partie parce qu'il y a un manque de confiance dans la qualité des produits, dans le manque de garantie. Donc, il faut qu'on crée une offre où tu peux trouver des vélos de toute marque, de tout modèle, de toute gamme de prix, à des prix qui sont bien plus intéressants que le neuf et avec un niveau de qualité et de garantie très important. Et ensuite, quand on a creusé le marché, on a réalisé qu'il n'y avait aucune capacité de reconditionnement à grande échelle. Donc, il n'y avait pas d'acteurs qui étaient en mesure de redonner une nouvelle vie à des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de vélos électriques. Et donc, très vite, on en est arrivé à la conclusion que pour se lancer, pour pouvoir créer une offre significative et grandir rapidement, il fallait qu'on opère nous-mêmes ce processus de reconditionnement. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé non seulement à créer un acteur qui va être une destination majeure pour un client qui s'intéresse au vélo électrique et souhaite acheter un vélo de qualité, mais éventuellement d'occasion reconditionné, et de faire cette étape de reconditionnement nous-mêmes plutôt que de passer par des tiers, par exemple, en simple place de marché.
Ouais, parce que, enfin, à l'époque, le Bon Coin fonctionnait très bien.
Ouais, mais le feedback qu'on entendait, tu vois, des personnes qui s'intéressaient aux vélos électriques d'occasion, c'était qu'ils avaient peur d'acheter sur le Bon Coin. Parce qu'en fait, ils se disaient, mais moi, autant acheter un vélo musculaire. Notamment quand on parle de passionnés qui connaissent les vélos de route, les gravel, les VTT, tout ce qu'on veut. Bah, vérifier que la transmission est en forme, que la roue n'est pas voilée, que le cadre n'a pas de fissure, ils y arrivent à peu près à l'œil nu. Mais quand tu commences à acheter un produit dont presque deux tiers du prix vient dans le moteur, la batterie et l'électronique, qui sont absolument dont tu es incapable d'évaluer l'état à l'œil nu, bah, ça commence à faire peur de se dire que tu l'achètes auprès de ton voisin ou de quelqu'un du village d'à côté. Et puis, un mois plus tard, il y a un pépin. Bon, bah, c'est tout, quoi. Tu n'as plus personne vers qui te tourner, tu n'as pas de garantie, voilà, tu n'as aucune confiance dans la qualité du produit que tu achètes. Alors que nous, on est en mesure de te proposer un produit qui, franchement, en dehors des rayures éventuelles sur le cadre qui vont rester, qui vont te rappeler que c'est un vélo qui a eu une première vie, bah, c'est un vélo qui vient dans un état qui vraiment se rapproche aussi autant que possible du neuf.